France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il était hier soir sur la scène de la Philharmonie de Paris. Il sera ce soir sur la scène de la Philharmonie de Paris pour les chants d'un compagnon errant avec l'orchestre de Paris dirigé par Yuka Pekka Saraste. C'est un concert qui sera d'ailleurs diffusé le 27 avril sur France Musique. On note la date. Bonjour Stéphane Degout.
Bonjour.
Alors, bariton en forme à 8h30, là, pile. Certains chanteurs refusent de venir le matin ici en direct quand ils chantent le soir. Ça n'a pas l'air de vous poser de problème, vous ?
Non, je suis un matinal. Ça ne pose aucun problème.
Mais la voix, il faut la soigner. Faut pas...
J'en ai pas besoin avant ce soir, que... alors ça va.
D'accord. Donc,
elle a le temps de se réveiller. Vous
jusqu'à midi.
Non, non, non. Elle a le temps de se réveiller tranquillement.
Vous avez des recettes, des manies pour. La préserver, là, en temps pluvieux
Non, faut se protéger un peu comme tout le monde, faire attention. Voilà, puis après des recettes un peu...
Des bons vins de chez vous,
ça, toujours.
Près de Lyon.
Toujours, évidemment, les bons vins, les bons élixirs en tout genre, et ça fait toujours du bien.
Comment sort-on, comme hier soir, de ces chants d'un compagnon errant qu'on pourra donc entendre le 27 avril sur France Musique ? C'est une musique que vous pratiquez depuis longtemps, Malheur ?
Non, je connais depuis longtemps, parce qu'évidemment, on ne passe pas à côté de ce genre de répertoire, surtout quand on est baryton. Mais la première fois, c'était les Kinder Toten Lieder, que j'ai eu l'occasion de chanter avec le National et Emmanuel Krivine, il y a bientôt 2 ans maintenant. Et puis c'est un cycle qui est plus tardif dans la composition, dans le travail de Gustave Mahler. Et celui-là, les chants d'accompagnement errant, c'est l'un des premiers travaux vocaux qu'il a fait. Il a commencé vraiment à se mettre au travail en 1880, il avait 20 ans. Mais la composition du cycle entier l'a tenu pendant une dizaine d'années, disons. Et on sort pas tout à fait tranquille ni indemne d'un passage comme ça, aussi court soit-il, parce que c'est 16 minutes de musique, mais on est déjà dans ce qui va jalonner tout le travail et toute la vie de Mahler, dans une forme des prémices de dépression, de maladie, de folie aussi. On est déjà là-dedans, et dans un lexique très romantique, hein. Il fait ça rappelle beaucoup Schumann même. Et il se trouve que je suis en train de travailler les Dichterliebe et je suis complètement dedans, quoi. Et c'est très prenant, c'est très fort. Et puis hier soir, en plus, après avoir chanté, je suis resté dans la salle pour écouter la sixième symphonie. Et là, je me suis dit, bon sang, c'est sans fin, c'est d'une profondeur et d'une c'est une vague comme ça qui nous emporte et on peut pas rester indifférent à ça. D'ailleurs, j'ai rien dormi cette nuit. Je sais pas si c'est à cause de ça ou à cause d'autre chose, mais voilà.
D'accord. Ou du réveil, mais vous vous réveillez tôt de toute façon.
Oui, voilà.
Bon, vous ferez une sieste avant ce soir. Ouais. D'ailleurs, je signale qu'il reste quelques petites places pour vous écouter sur francemusique. Je suis en train de bugger à la Philharmonie. Oui. À la Philharmonie pour le concert de ce soir avec l'orchestre de Paris. C'est le même travail sur les textes ici de Mahler que ces ballades ou ces leaders de Schubert. Schumann, Brahms, dont on va parler dans un instant et qui sort demain au disque.
Oui, complètement. Parce que alors, il se trouve que sur les quatre, Mahler a écrit trois des quatre textes. Il les a écrits lui-même. Le premier, il est extrait du Kinder Wunderhorn, qui est une espèce de grand cycle de textes, de poèmes allemands, qui pour la plupart ne sont pas signés d'ailleurs. Et les trois suivants, il les a écrits lui-même. Mais l'approche est la même parce que il faut toujours se souvenir dans ce répertoire de leader, de mélodie, que le compositeur a d'abord lu le texte avant de le mettre en musique et qu'il est passé par une espèce de mûrissement, une espèce de façon de le prendre, de le comprendre et ensuite de le transposer. Donc on doit avoir quelque part on doit suivre un peu ce cheminement pour essayer de comprendre les choses. Et le travail sur... c'est de l'allemand, donc la prononciation, tout simplement, après la ponctuation des textes, ce que ça raconte, ce que ça veut dire, s'il y a du symbole derrière, s'il y a quelque chose de... Quelles sont les voies à explorer. Tout ça, c'est un travail qui est identique dans tout le répertoire de récital, en fait.
Épique, c'est le titre de ce disque, leader et ballade de Schubert, Schumann, Brahms, Liszt et quelques autres, avec Simon Lepper, Simon ?
Oui,
Simon Lepper au piano, ça sort demain chez Harmonia Mundi. Et ça commence par ce lead de Schubert, Der Zwerg, le nain, ça dure à peu près 5 minutes, mais impossible de couper avant la fin, c'est à tomber de beauté, vous allez tomber amoureux de ce disque maintenant à 8h34.
Vor Gram erblinden. Er spricht, du selbst bist schuld an diesem Leide, weil um den König du mich hast verlassen. Jetzt weckt dein Sterben einzig mir noch Freude, einzig mir noch Freude. Zwar werd ich ewiglich mich selber hassen, der dir mit dieser Hand den Tod gegeben. Doch muss zum frühen Grab du nun erblassen. Dass sie zum Himmel betend will erheben. Mögst du nicht Schmerz durch meinen Tod gewinnen, sie sagt, da küsst dir Zwerg die bleichen Wangen. So bald vergehen ihr die Sinne. Der Zwerg schaut an die Frau von Tod befangen.
Il va falloir attendre demain pour acheter ou charger légalement ce disque épique avec Stéphane Degout et Simon Lepper au piano, disque Harmonia Mundi, qui sort donc demain. Ici, c'était Le Nain d'Herzberg, Franz Schubert. Stéphane Degout, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire?
Oui, ça raconte une histoire. Il y a même deux personnages qui sont cette reine et son nain. Ça raconte l'histoire d'un nain qui est totalement amoureux de sa reine et qui développe une jalousie incroyable au point de la tuer. Et c'est le moment où justement il l'emmène sur une barque au loin pour la noyer. Donc il l'étrangle avec un ruban de soie rouge et puis il regarde son corps s'enfoncer dans l'eau. Mais là, une sorte de malédiction qui est que ce nain ne pourra jamais revenir sur Terre. Il sera presque condamné, c'est pas dit, mais à errer sur les mers.
Donc deux morts à la fin de ce oui. Lead.
Ça commence bien le disque.
C'est le point commun entre toutes ces pièces, ces ballades ou ces leaders. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un lead et une ballade? Quand est-ce que c'est une ballade?
Une ballade, on raconte vraiment une histoire. C'est une sorte, il y a une légende, il y a souvent des personnages. C'est une histoire qu'on raconte à quelqu'un, qu'on raconte à des enfants, qu'on raconte au coin du feu, comme ça. C'est dans la mélodie, dans le lead, on est plus dans le ressenti,
plus dans la poésie.
Dans la poésie, oui aussi. Là, on est vraiment, on raconte des faits. C'est très très imagé. Dans la mélodie, on est souvent dans le symbole, on est souvent dans quelque chose de plus intime, de plus intérieur. Et là, dans toutes ces ballades, c'est souvent une sorte de mythologie nordique. Edward, par exemple, c'est une ballade écossaise.
Edward, c'est une ballade de Carl Loewe qui est
voilà, Carl Loewe et aussi de Brahms. Les deux ont mis en musique ce texte de façon très différente. Et puis on a aussi un extrait biblique, par exemple Belshazzar, que Schumann a mis en musique. Il y a beaucoup de choses extrêmement différentes comme ça, très variées. Et il y a le fait qu'on est très souvent, on donne la parole à un personnage.
Donc vous êtes conteur, puis chanteur.
Voilà, narrateur, et je donne ma voix à la princesse, à la reine, pardon, quand elle parle aux étoiles, aux nains, etc. Et à Édouard lui-même dans une autre ballade, à tout ce monde, quoi.
Le travail est très différent sur le texte de l'opéra?
Oui, complètement, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, si, fondamentalement, mais je veux dire, à l'opéra, on incarne un personnage de toute façon. Et on est dans la construction de rapports avec les autres personnages sur scène. On raconte une histoire, mais en incarnant un personnage. Là, on raconte une histoire en étant le narrateur. Donc oui, le texte, d'abord, ce qu'en font les compositeurs est très différent. Le souci, le soin des compositeurs pour le texte à l'opéra est souvent mis au deuxième plan, parce qu'il faut aller à l'essentiel, il faut aller à quelque chose d'un peu plus éloquent, d'un peu plus impressionnant à l'opéra, puis à un orchestre.
Stéphane Degout, vous avez toujours chanté du lead, toujours chanté de l'allemand?
Oui, alors, on va dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que quand je suis entré au conservatoire à Lyon en 95, on m'a gentiment fait comprendre que je n'avais ni la voix ni les épaules pour faire une carrière à l'opéra, mais que je pouvais toujours chanter de la mélodie française, ça m'occuperait pendant les 4 ans que je devrais passer dans cette maison. Et puis, évidemment, ça m'a vexé, mais c'est tombé dans les oreilles de deux personnes qui ont été fondamentales dans mes débuts, puis pendant une vingtaine d'années, qui sont Hélène Lucas, pianiste, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, et Ruben Lifshitz, qui était notre mentor, qui est décédé il y a 4 ans, et avec qui j'ai travaillé presque non-stop pendant 20 ans. Ce répertoire, mais aussi de temps en temps, des petites balades dans le répertoire de l'opéra. Et je me suis rendu compte que ce répertoire était fondamental en miroir du répertoire de l'opéra, mais aussi dans la façon et dans les outils que ça m'a donné pour aborder l'opéra, et pour en particulier aborder le texte. Je disais tout à l'heure que le texte passe souvent au second plan à l'opéra, mais il y a quand même dans le répertoire de l'opéra le 18e siècle français, par exemple, Rameau, Gluck, ce sont des compositeurs qui ont un soin particulier pour le texte. Debussy, ensuite, Ravel, toute la musique du 20e siècle, on est d'abord sur une pièce plus que sur un opéra, sur un livret. Wozzeck, c'est des choses qui sont où le texte est primordial et les compositeurs l'ont respecté. Donc, le travail autour du récital, autour de ce répertoire-là, m'a donné des outils, des clés pour aborder le reste, tout simplement.
Ruben Lifshitz, que vous citez souvent, qu'est-ce qui vous a appris précisément sur ce travail du lead? À quoi vous pensez de ce qui vous a transmis quand vous travaillez, par exemple, Liszt, qu'on va entendre dans un instant?
Ben justement, la lecture du texte, avant tout, d'abord, il était totalement polyglotte et parlait allemand couramment, c'était sa langue maternelle d'ailleurs. Le travail sur la prononciation, le travail sur la ponctuation des textes qui est fondamental. Et puis Ruben avait cette faculté qui est presque celle d'un metteur en scène, qui était d'ouvrir des imaginaires, de nous emmener parfois dans des directions bizarres et inattendues, et qui au bout d'un moment nous faisait comprendre qu'on était dans une voie qui était proche d'une sorte de vérité. Ruben était un pianiste avant d'être accompagnateur, un pianiste virtuose. Il a fait une carrière de soliste relativement courte dans les années 50-60. Puis ensuite, il a rencontré Eric Tapie, ce ténor suisse, avec qui ils ont fait des récitals et avec qui ils ont créé ensemble l'Opéra Studio à Lyon au début des années 80. Et donc, il s'est très rapidement consacré à l'enseignement, mais pas du piano, l'enseignement du récital. Et par son amour de la poésie lui-même, le fait qu'il était complet d'une certaine façon dans cet enseignement, parce que polyglotte, amoureux de la poésie, pianiste lui-même, donc il avait absolument toutes les clés de ce répertoire.
Après la reine et le nain, voici le roi de Tulé.
Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab, dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab, einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er hielt in jeden Schmaus. Augen gingen ihm über, so oft trank daraus, so oft trank daraus. Und als kam zu sterben, zählt seine Städte im Reich. Gönnt alles seinen Nerven, den Becher nicht zugleich, gönnt alles seinen Nerven, den Becher nicht zugleich. Hier saß beim Königsmahle, die Ritter um ihn her, auf hohen Vätersaale, dort auf dem Schloss am Meer. Dort stand ihr alte Zechel, trank letzte Lebensblut und warf den heiligen Becher hinunter in die Flut, hinunter in die Flut. Ihr seid stürzen, trinken und sinken tief ins Tätten im Sinken. Trank nie einen Tropfen mehr. Trank nie einen Tropfen mehr.
Texte de Goethe, musique de Liszt, le roi de Tulle, il était un roi de Tulle, Stéphane Degout avec Simon Leper, le disque paraît chez Harmonia Mundi. Demain, l'allemand, vous êtes tombé dedans jeune, vous avez appris l'allemand
J'ai commencé en sixième, collège, lycée, je me suis inscrit en allemand première langue, pensant que ça allait me mettre dans une classe de bons élèves, de haut niveau, etc. Évidemment, il n'en fut rien, j'étais un cancre comme les autres. Et puis, je suis revenu à l'allemand au conservatoire, parce que justement, Ruben m'a tout de suite mis sur des leaders, justement des ballades. Belsatzar est l'une des premières choses que j'ai travaillé avec Ruben. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une langue qui avait une musique très spéciale, qui demandait un travail de prononciation, donc physique, de la bouche, de la mâchoire, et qui était assez, assez intéressant, et qui, en tout cas, qui me parlait, qui me convenait, en tout cas.
Ça vous convient très bien. Il y a un peu d'italien aussi à la fin. Il y a Liszt, oui. Les sonnettes de Pétrarque. Vous avez chanté en italien il y a quelques mois. C'était votre prise de rôle, comme on dit, le conte des noces de Figaro.
Oh non, c'était pas une prise de rôle du tout. Je chante le conte depuis 2003.
Ça s'est bien passé, cette
production ? Ça s'est très, très bien passé. J'ai beaucoup aimé travailler avec James Gray. La production était belle. Il y avait une équipe vraiment très chouette. On a tous pris un bon pied là dans cette production.
Mais vous chantez rarement en italien ?
Ben, assez peu, ouais.
On vous connaît d'abord en français ?
Oui, forcément. C'est mon répertoire de prédilection. Et puis il y a aussi, des couleurs de voix, quelle que soit la nationalité qu'on a. Notre voix nous guide forcément vers des répertoires. Et ma voix est pas tout à fait, n'a pas tout à fait la couleur pour le répertoire italien. Mais je m'en plains pas, je suis très content avec le répertoire que je fais en français, en allemand.
En russe aussi, vous vous mettez en russe, ces temps-ci. La Dame de Pique à la Monnaie à Bruxelles le mois prochain.
Absolument, c'est mon année russe 2020. 2021.
On peut révéler qu'à Toulouse, ce sera Onéguine l'année prochaine, on a le droit.
On a le droit. J'ai eu l'aval de la direction il y a moins de 10 minutes. En janvier prochain, oui, Onéguine, une prise de rôle très importante.
Difficile le russe ?
C'est particulier, oui, ça demande un travail plus long, je pense. Et pour la mémorisation aussi, c'est un peu spécial, parce que je suis en terrain complètement inconnu. On a besoin d'une structure quand même que j'ai en français, forcément, que j'ai aussi en allemand, je connais la langue. Mais en russe, je suis un peu en terrain inconnu, donc j'ai besoin d'aide et ça prend plus de temps. Mais c'est aussi un plaisir particulier.
Pour finir, Stéphane Degout, votre voix, elle évolue comment ? Comme du bon vin ?
J'espère. En tout cas, je pense qu'elle évolue bien. Elle me convient tout à fait, l'évolution.
Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, und der Kaiser gefangen. Zusammen die Grenadier, wohl ob der kläglichen Kunde, der eine sprach, wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde, der andere sprach, das Lied ist aus. Auch ich möcht mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitte. Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit. Begrab mich in Frankreichs Erde. Das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen. Die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir um den Degen. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwache im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wieder der Rosse getragen. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab. Viele Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen.
Les deux grenadiers, Heinrich Heine pour les textes, la musique de Robert Schumann. C'est le disque qui sort demain de Stéphane Degout, notre invité ce matin avec Simon Leper. Magnifique, très beau disque, on est amoureux de ce disque. D'ailleurs, c'est un choix France Musique, merci beaucoup. Concert ce soir à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris dans Malheur. Et puis on vous retrouvera également le 2 juin à la Basilique Saint-Denis pour le Festival de Saint-Denis dans les Nuits d'été de Berlioz que vous avez enregistré récemment avec François-Xavier Roth.
Oui, absolument. Et puis aussi le 5 juin pour un récital avec Alain Planès.
Le grand Alain Planès.
L'amphithéâtre musée d'Orsay.
De la musique française.
Oui. Et Dichter Libre aussi.
Aussi.
Oui.
Ah ben on ira. Rendez-vous demain avec notre invitée Camille Pépin, la compositrice. Elle a remporté la victoire cette année. C'est Xavier Atto, Julien Calvas à la technique, Salomé Coq, Marion Guillemet, Margot Muller ont préparé cette émission. Yacine Bouzard l'a réalisée. Et l'œuvre que nous écoutions il y a une heure, notre petit jeu, notre grand jeu, c'était un quatuor de Beethoven qui date de 1800.
À réécouter sur francemusique.fr.